Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le studio de Micro Rebelle, dans la rubrique L'actualité vue par les jeunes. Donc pour rappel, nous sommes en direct, donc nous sommes aussi diffusés chaque dernier mardi du mois sur Radio Plus à Douvrin 104.3. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Luc, Jonathan, Océane ainsi que Mélissa. Donc aujourd'hui nous allons débattre sur le sujet suivant, le terrorisme et l'état d'urgence. Donc on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour parler du terrorisme et de l'état d'urgence. Donc on va faire un petit tour de table pour demander ce que chacun va faire. On va peut-être commencer par Océane du coup.
Alors moi aujourd'hui je vais parler du plan Vigipirate.
Donc ensuite moi je parlerai plus spécifiquement des gardes du corps et du port d'armes autorisés en France, mais aussi la question est-ce que la sécurité est-elle nécessaire. Et ensuite Luc peut-être.
Alors moi je vais parler de la loi sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'on a supprimé l'état d'urgence, mais les principales mesures de l'état d'urgence sont rentrées dans le droit commun.
Et moi je vais vous parler du recrutement via des réseaux internet.
Et pour terminer, je vais vous parler de ces revenants du coup qui viennent du djihad, enfin ces personnes radicalisées, voilà.
Donc on va vous laisser avec une courte pause musicale. Donc la musique, ce sera donc... alors c'est un nom un peu compliqué, Saki Broken Castle. Donc à tout de suite.
of different shades of red and gray. You found a message in the bottom. You used to pray, your promise washed away. Left them on the sand with broken castle. With the chains, I'm done with this race. Left the mess of what we built and turned to ashes. One of these days I'm gonna have my way. It's gonna be hell to pay. Oh, swept away, I've seen your wicked ways. It's gonna be hell to pay. One of these days I'm gonna have my way.
Eh bien, nous sommes en direct sur microrebelle.fr. Aurélie, notre animatrice, est en train de nous lâcher. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire.
Ah ben, je suis en train de diffuser en direct sur Facebook que nous sommes en direct pour que tous nos auditeurs nous écoutent dessus en direct.
Tu recrutes des auditeurs via Facebook, exactement, comme les djihadistes le font avec leurs jeunes recrues.
Et c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et de ce fait, on va laisser la parole à Laetitia, n'importe quoi, à Océane, désolée, je suis mal réveillée aujourd'hui, qui va nous parler de...
Du plan Vigipirate.
Exactement.
Donc le plan Vigipirate, c'est quoi? Avant tout, c'est un outil de dispositif qui lutte contre le terroriste. Donc ces dernières modifications ont été faites le 1er décembre 2016. Donc en fait, on est passé de 2 niveaux à 3 niveaux, qui sont la vigilance, qui a un état permanent, la sécurité renforcée, risque attentat, c'est tout ce qui touche à la fouille, à l'identité que l'on peut voir lorsqu'on rentre dans un magasin ou autre. Et le troisième qui a été rajouté, c'est urgence attentat. Donc ça, c'est face, par exemple, lorsqu'on a reçu déjà des menaces ou suite à un autre attentat, nous sommes directement dans ce niveau-là. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais surtout parler, c'est des exercices que l'on doit pratiquer en cas d'attaque. Donc, il y en a plusieurs, comme par exemple, le premier, ça serait s'échapper, qui est en réalité, on doit se déplacer, mais toujours en s'abaissant, de préférence par les portes de secours. Et si au passage, on croise des personnes, bah, soit les aider ou au moins les prévenir. Il faut se mettre le plus loin possible de l'attaque. Le deuxième et le plus courant, je pense, parce qu'on le fait notamment au lycée, c'est se cacher. Donc en réalité, c'est on ferme les portes à double tour, on les barricade, on se met par terre et on ne bouge pas, on coupe tout ce qui est son, lumière, on est le plus discret possible. Ensuite, il y a aussi alerter, donc tout simplement, on appelle les forces de l'ordre. On a 2 numéros possibles, c'est le 17 ou le 112. Et pour dernier exercice, c'est le geste d'urgence, qui est en réalité, si besoin est faire tout simplement les premiers gestes de secours, les premiers soins, si on trouve des personnes blessées ou si nous sommes nous-mêmes blessés. Donc, je voudrais revenir en fait sur cet exercice parce que il faut savoir que quand on est attaqué, il y a souvent des gestes de panique, des gestes de stress qui survient. Et justement, je me demande si réellement, lors des attaques, on applique les exercices qu'on doit faire normalement. Parce que je me dis, est-ce que la panique prend finalement plutôt le dessus ou pas? Je sais pas, d'après vous.
Donc moi, je pense qu'en fait, même encore aujourd'hui, par rapport à toutes les, les préventions qu'on fait, notamment pas seulement pour le terrorisme, mais aussi les armes incendies et tout, dans maintenant les collèges, les lycées, toutes les écoles, je pense qu'en fait... c'est vachement loin de la réalité de l'action, c'est-à-dire en fait que on est tellement préparé entre guillemets à ça que quand ça arrive vraiment, la panique survient et que on se rend compte qu'en fait c'est réel et que c'est vraiment une prévention qui a pour but de peut-être un jour être exercée en fait. Et je pense que la panique, ces exercices, peut-être qu'ils servent à quelque chose, mais je pense que dans un état de panique, comme quand il y a un feu autour de nous, la raison, il n'y a plus de raison, on panique, et puis c'est l'instinct de survie qui revient en fait. Donc je pense qu'en effet, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile finalement?
Ouais, c'est vrai que non, mais je suis d'accord avec toi. Sans doute qu'en fait, en état de panique, comme tu dis, on se marcherait les uns sur les autres, on sauterait par les fenêtres, on ferait des choses qui n'ont plus rien à voir avec les stratégies de prévention pour éviter effectivement un feu ou une attaque terroriste. Bon, après, est-ce que c'est utile? Je sais pas. Même dans les écoles primaires, maintenant, il y a des exercices. On apprend aux enfants. Ils font des exercices de confinement dans les classes, ils font des exercices de fuite. L'utilité, je sais pas. Est-ce que c'est l'ambiguïté, est-ce que c'est anxiogène? C'est-à-dire qu'on apprend à des enfants le fait qu'il puisse y avoir une menace terroriste, ce qui peut quand même les faire flipper. Ou est-ce que c'est utile, parce que le jour où ça arrivera, ils auront peut-être quelques outils pour répondre à l'instant dramatique?
Ben, je pense que c'est utile parce que, comme ça, les enfants, ça les prépare à se préparer au pire, en fait. Mais après, je me dis, finalement, ces enfants, ils sont préparés dans des conditions quand même de sûreté. Ils sont préparés, mais dans des fausses conditions, et certains ne prennent pas, ces entraînements au sérieux. Et je me dis quand même, le jour où ça devrait vraiment arriver, je pense que ce sera panique générale, quoi. On a beau s'entraîner pour faire face à une situation pareille, le jour où ça va arriver, malheureusement, ça arrivera, et là, ben... Effectivement, c'est pas sûr que ça fonctionne, quoi.
On peut faire une mise en scène, le gouvernement met des soldats d'élite avec des balles à blanc et on fait semblant qu'une mise en scène comme ça.
Je crois qu'ils l'ont fait à la télé.
Ah, c'est vrai, en plus.
Ouais, il me semble qu'ils avaient fait une espèce de truc comme ça, une espèce d'exercice terroriste ou même de guerre, comme si la France était envahie par l'État islamique. Et je crois qu'il y a eu un plan comme ça à la télé.
Puis après, je pense aussi que le fait qu'on soit en panique, en fait, quand on fait ces exercices, comme disait Mélissa, c'est pas dans les vraies conditions. Puis ensuite, sérieusement, je pense que, en fait, quand il se passe des attaques terroristes comme ça, c'est l'instinct de survie, comme je le disais juste avant, qui reprend le dessus. Et au final, tout ce qu'on veut, c'est sauver notre peau. Et l'esprit de solidarité et de sauver les autres. Bon, il y a quelques personnes, c'est vrai, qui sont passées dans les journaux quand il y a eu des attaques terroristes et qui ont sauvé des gens, mais. Au niveau statistique, je pense, moi, si j'étais dans cette situation, plus sincèrement possible, je dirais que j'aurais tendance plutôt à prendre les jambes à mon cou et ne penser qu'à moi. Et c'est égoïste, mais l'humain est égoïste en soi, donc c'est mon avis après. Mais...
Bah, je veux rebondir un peu sur ce que tu as dit, c'est comme on a pu remarquer par les témoignages, par exemple, des gens, des personnes qui ont été au Bataclan, comme ils disaient, les gens, ils étaient carrément dans un état de panique, ils sont mis juste tous à courir, en fait, à se marcher dessus carrément, alors que, de base, la meilleure chose à faire, c'est se mettre par terre, ne plus bouger et attendre les forces, quoi. Donc c'est vrai que...
Il y avait un kamikaze, donc même se mettant à terre, ça n'aurait pas fait effet.
Ouais, mais c'est l'exercice du gouvernement qui propose ça, c'est pas moi.
Après, je pense aussi, c'est la question, est-ce que ces exercices, sont-ils vraiment aptes à la situation, en fait? Est-ce que vraiment se mettre par terre et faire semblant d'être mort ou ce genre de choses, est-ce que ça marche vraiment? Parce que je pense que finalement, les terroristes, quand ils arrivent, ils tirent un peu partout, donc finalement, pourquoi ils tireraient pas au sol?
Ça a fonctionné avec un rescapé, elle s'est mise... Elle a fait exprès de tomber à terre et on s'est mêlé avec d'autres cadavres en fait qui étaient sur le sol. Et c'est comme ça en fait qu'elle a pu survivre aux attaques.
Ouais. C'est vrai que c'est un peu.
En fait, il faut s'adapter sur la situation parce qu'on va pas faire, se cacher alors que quelqu'un a une arme, comme si l'autre c'est un kamikaze. Il faut s'adapter avec l'arme qu'il utilise, par exemple.
Du coup, je vais peut-être rebondir sur le sujet la chronique que je vais lire. Jonathan, tu disais il y a quelques secondes d'ailleurs que par rapport aux armes, donc final, est-ce que le mieux ne serait pas d'armer tout le monde, donc pour être prêt à d'éventuelles attaques terroristes? Donc moi, je parlais plus principalement des gardes du corps. Donc un garde du corps doit-il posséder une arme? C'est une des questions qui est survenue en France depuis environ 2 ans, depuis le début entre guillemets des attaques terroristes récurrentes. Donc doit-on, au nom de la sécurité nationale et plus précisément au nom de l'état d'urgence, armer les gardes du corps, notamment dans les centres commerciaux, type Euralil, qui n'est pas très loin d'ici? Il était déjà possible pour un garde du corps d'être armé, mais cela uniquement par demande de dérogation. Or, aujourd'hui, cela entre en vigueur dans les lois, donc c'est un changement quand même... Plutôt important. Donc on peut se poser la question, a-t-on besoin nécessairement d'une arme pour protéger et surtout se protéger? Est-ce de cette manière qu'en France nous voulons faire les choses ? Donc le constat, il est pourtant clair en fait. Le port d'armes, il est dangereux dans de mauvaises mains. Aux États-Unis, par exemple, on a encore eu, il n'y a pas très très longtemps, une tuerie de masse. Et les tueries de masse aux États-Unis, il y en a quand même pas mal chaque année. Et cela au nom de quoi ? La liberté de se protéger. Je pense, pour ma part, en fait, que créer une forteresse autour de soi-même n'est pas forcément la bonne solution. À quoi bon donner une arme à un garde du corps, de rallye par exemple ? Quelle en est la pertinence ? Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose ? À quoi bon renforcer la sécurité nationale si au final, rien ne peut être déjoué ? Bon, je vais être un peu pessimiste, voilà, mon constat est quelque peu pessimiste, il est vrai, mais nous ne pouvons prévenir une attaque terroriste, ni encore moins l'arrêter. Et c'est un triste constat, malheureusement. Nice, Paris, ces événements nous l'ont montré. On était préparés, pourtant. On était déjà, il me semble, en état d'urgence lorsqu'il y a eu l'attentat à Nice. Et pourtant, est-ce que ça a changé quelque chose ? Croyez-vous qu'aujourd'hui, renforcer la sécurité amène à un risque zéro ? Et d'ailleurs, est-ce que les risques zéro existent ? Est-ce que cela change quelque chose d'être armé et encore surarmé et même de vouloir armer un peu tous les citoyens, peu importe leur motivation et leur métier ?
Alors, armer tous les citoyens, non, parce qu'aux États-Unis, il y a des milliers de morts chaque année par citoyen, parce qu'ils sortent dessus. Mais avoir la sécurité, avoir des armes, oui. Parce que ça, c'est vrai qu'avec un kamikaze, s'il s'explose, on ne peut rien faire, mais avec des armes. Mais si ce sont des armes armées avec des kalachnikovs, admettons, t'es bien content, entre guillemets, que t'as des personnes sur qui tu peux compter, qui peut très bien les abattre de loin. Parce que si personne a des armes, comment en fait ils vont arrêter leurs attaques ? Ils vont continuer à tirer ?
Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, Jonathan, mais en partant du principe que souvent, comme vous allez en parler un peu plus tard, il me semble que c'est ta chronique, Jonathan, en fait, les personnes qui sont plutôt terroristes, c'est pas majoritairement des personnes qui viennent d'autres pays, c'est aussi des personnes qui sont nées en France et qui ont grandi en France et qui sont français, quoi, en général. Donc, je veux dire, armer tout le monde, comme aux États-Unis à l'extrême, ça serait aussi donner le bâton pour se battre, entre guillemets. Donc, je pense que dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Puis bon, comme tu l'as dit, aux États-Unis, armer tout le monde, c'est une mauvaise idée. Après, bon, eux, c'est dans leur culture, dans la nôtre, ce n'est pas comme ça. Mais est-ce que vraiment armer un garde du corps, par exemple, il me semble que c'était, c'est pas trop une référence, mais Cyril Hanouna a demandé que son garde du corps soit armé. Est-ce que vraiment c'est pertinent ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'un garde du corps, déjà, doit-il être armé alors qu'il n'a pas forcément, la formation nécessaire ? Parce que c'est vrai que je me suis renseignée un peu sur le sujet, les gardes du corps ont une formation, mais ils sont pas préparés aux attaques terroristes du tout. Ils sont là pour vérifier nos sacs à main aux entrées de Ralil. C'est pas un boulot où nécessite d'avoir un flingue.
Ouais, c'est vrai, je te cherche parce que si les mecs ils fouillent un sac et qu'ils voient une bombe, qu'est-ce qu'il fait le mec ? Il part armé, il a rien à faire. Donc du coup, je sais pas moi, s'il voit qu'il y a une bombe dans le sac, il va faire quoi le gars ? C'est ça que j'ai jamais compris.
Bah après, moi je suis pour armer les policiers, les gardes du corps, etc. Mais bien sûr, il faut qu'ils aient une formation. Et je pense peut-être que ce serait bien de mettre des militaires plutôt sur le terrain que de simples policiers ou gendarmes qui ne sont pas forcément préparés à tout ça en fait. Et puis après, ouais, effectivement, je pense que c'est. Enfin, il faut pas armer les citoyens parce que ça pourrait. Enfin, ils sont pas compétents à utiliser des armes et ça pourrait être vraiment trop dangereux. Et enfin, je voulais dire un truc, j'ai oublié, donc je vais laisser la parole à Aurélie, mais je dirai après.
ça va te revenir, t'inquiète pas, je vais parler, je vais te laisser le temps de. Je vais occuper la parole pour que tu retrouves ton idée du coup. Donc, du coup, tu parlais des militaires, Mélissa, donc je vais rebondir dessus. Enfin, par exemple, quand on va à Lille, il y a plein de militaires partout, au final, ils sont 15 et au final, ils s'emmerdent bien. Enfin, ça se voit clairement qu'ils sont là et ils parlent entre eux parce qu'il n'y a pas vraiment d'attaque. Après, je pense aussi que c'est au niveau de la sécurité. Je trouve personnellement que sur le territoire, on gère plutôt mal la sécurité. Finalement, on avait déjà des militaires quand il y a eu l'attaque à Nice un peu partout et ça n'a pas arrêté le mec qui est en camion et qui a tué. Beaucoup de Français, quoi, comme ça, sur un coup de tête. Je pense qu'en fait, la sécurité qu'on donne aujourd'hui, par exemple dans les centres commerciaux, dans les espaces publics en général, c'est surtout une illusion. Je pense que finalement, ces personnes, ces militaires, ok, ils ont peut-être une arme chargée à leur ceinture, mais finalement, même avec une arme, on n'est pas si puissant que ça. On peut pas arrêter ce qui est déjà en route, ce qui est déjà en marche, je trouve. Après, c'est...
Vas-y, bah, si t'as retrouvé ce que t'allais dire,
non,
je t'en prie,
non,
je parlerai
une,
après.
C'est une autre idée, mais, mais en fait, je pense que c'est quand même mieux qu'ils soient là que pas là, en fait, parce que je pense que, enfin, s'ils n'avaient pas été là lors des attentats de Nice, je pense qu'on n'aurait pas pu abattre ceux qui avaient commis les attentats, en fait. Et le fait qu'ils soient présents, ça a créé une forme de dissuasion, donc je pense que ça peut aider, en fait.
Je suis désolée, Luc, hein, je te pique un peu la place, ouais, mais je repense sur Mélissa, elle parlait des attentats, l'attentat de Nice. Bah, en fait, c'est même pas, il me semble, un militaire qui a... Enfin, qui a arrêté le camion, c'est un citoyen carrément qui s'est jeté, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, c'était écrit dans les journaux, mais qui s'est jeté sur le camion et qui a essayé d'arrêter le terroriste. Et je pense qu'en fait, ça, enfin, au bout d'un moment, les policiers, les militaires et tout, ils ont fait ça, mais qu'après, quoi. Et je pense que dans ces moments-là, les policiers, les militaires, au niveau psychologique, ils sont dans le même état de panique que nous. Au final, ils ont été formés peut-être pour ça, mais il n'en reste pas moins des citoyens français et juste des personnes normales, ils sont pas surhumains, et je pense que même avec un flingue, ça changera pas grand-chose au niveau de... Enfin, voilà, quoi, au niveau de l'attentat, quoi.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Premièrement, effectivement, on peut se poser la question de l'efficacité de la stratégie défensive vis-à-vis des armes. Je suis pas sûr que ni un policier, ni un militaire, je veux dire, il y en a partout dans les gares, il y a des gens armés partout dans les rues, déjà, et ça n'empêche pas les kamikazes de commettre des actes terroristes, parce que c'est des martyrs, ils en ont rien à faire de mourir. Donc il peut y avoir une arme en face ou pas, ils vont quand même essayer. Alors après, c'est vrai que... On doit quand même constater que ça n'a pas été très efficace, que ce soit à Nice ou au Bataclan, y a des gens armés partout et les attentats arrivent quand même. Après, sur la question qui armé, moi je pense qu'un vigile n'est pas, c'est même pas une question de compétence. Non, il n'est pas apte à porter une arme. Moi, ça me fait peur que ces gens-là aient des armes. Le citoyen, n'en parlons même pas. Quand on voit le climat anxiogène, le climat de violence qu'il y a aux États-Unis. Et le nombre de meurtres par arme à feu, comme tu disais tout à l'heure, des citoyens qui s'entretuent pour un oui ou pour un non, je trouve ça assez flippant. Je trouve que même la police, la question se pose à savoir est-ce qu'on fait bien de leur mettre une arme dans les mains. Bon, peut-être qu'il y a certains cas, je ne dis pas qu'il peut y avoir des groupements de police armés pour faire face à certains cas, mais que dans les rues, les policiers soient armés. Je pense que principalement, jusqu'ici, ça a servi à commettre des bavures policières. Et je suis pas non plus très favorable à l'armée d'une manière générale. Donc bon, moi je prends le truc à contre-pied, quoi. Mais j'avoue que j'ai pas de solution. Hein. Je sais pas comment, quelle serait une bonne stratégie de défense. Mais je pense pas que les armes à feu soient dans notre dans la situation actuelle de menace terroriste, la meilleure solution. Je pense que ce qui marche le mieux jusqu'ici, c'est de déjouer avant qu'ils n'arrivent les actes terroristes. Une fois qu'ils sont là, ouais, peut-être que ça limite le nombre de morts. Bon, c'est déjà ça, hein, mais c'est un peu trop tard quand même.
Après, je rejoins ce que tu dis, Luc. Je pense que finalement, il n'y a pas vraiment de solution par rapport au terrorisme. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'en fait, fermer les frontières, à quoi ça sert si les terroristes, ils sont déjà en France, et si ce sont, justement, comme va le dire Jonathan tout à l'heure, souvent des Français qui viennent d'ici, quoi. Ça sert vraiment à rien, les armes, je rejoins un peu ton avis. Donc...
On va clore le sujet, on continue, si personne n'a plus rien à dire.
Bon, je pense que c'est bon.
Moi, je veux parler, ça se rejoint tout à fait, du fait que les principales mesures de l'état d'urgence sont à présent retranscrites dans le droit commun avec cette loi dite de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. Alors il y a eu des alertes sur les atteintes à l'état de droit et la possible criminalisation des mouvements sociaux, notamment la Ligue des droits de l'homme qui a alerté vis-à-vis de cette loi et sa non-constitutionnalité. Cette loi permet de pérenniser l'état d'urgence, c'est-à-dire de pérenniser un état d'exception. Un état d'exception, c'est notamment un état de guerre qui justifie des mesures spécifiques et en général qui contraignent les droits et libertés des citoyens. Et cette retranscription dans le droit commun est d'autant plus problématique qu'elle n'est pas passée devant le Conseil constitutionnel. Donc cette loi est en quelque sorte non conforme à la Constitution française. Donc on peut se poser pas mal de questions, notamment l'efficacité de l'état d'urgence dans la lutte contre le terrorisme, c'est ce dont on était en train de parler. sachant que beaucoup de législations possèdent déjà la possibilité de mettre en œuvre certaines dispositions qui exigent la situation de menace terroriste. Et surtout, là, on constate qu'ont été écartées les questions de fond. Enfin, c'est surtout ça qui pose problème, là, avec cette loi. C'est notamment la séparation des pouvoirs, qui est un peu, en quelque sorte, abolie avec l'état d'urgence. C'est-à-dire que le juge est mis de côté. Donc, la législation comment dire, en quelque sorte, avec l'état d'urgence, il ne reste plus que l'exécutif. C'est-à-dire que là, on le constate, la loi n'est pas passée devant le Conseil constitutionnel, donc le pouvoir législatif est mis de côté. Et avec l'état d'urgence, les juges aussi sont mis de côté. Donc, en gros, ça crée une espèce de contexte d'autoritarisme politique. Et ça pose également le problème pour garantir les libertés quand on supprime le judiciaire. Donc, les mesures d'exception qui sont entrées dans le droit commun, ce sont la fermeture possible de lieux de culte, l'organisation de périmètres de protection, ça c'est celle qui est le plus utilisée jusqu'à présent, le contrôle administratif et la surveillance des individus, et des procédures de visite et de saisie, notamment des perquisitions, encore une fois, sans juge. Donc cela soulève les questions de constitutionnalité, pardon, c'est un mot pas facile à prononcer, c'est-à-dire les dispositions de cette loi sont-elles conformes à la Constitution? Selon la Ligue des droits de l'homme, non. Donc elle vient non seulement brider la liberté des individus, mais en plus elle criminalise certaines formes de militantisme. Par exemple, c'est le cas à Calais ou à Vintimille avec les associations de migrants qui subissent un harcèlement, qui sont criminalisés et dont on condamne ou tente de faire condamner pour un délit d'humanité. Ça a été également le cas l'année dernière et l'année d'avant, 2016, avec le mouvement de loi travail où on a criminalisé, on a contraint certains militants à rester chez eux comme s'ils étaient accusés de terrorisme, alors qu'à la base ce sont des militants qui voulaient aller manifester et se mobiliser pour la loi travail. Donc c'est surtout ce type d'extension-là des mesures d'état d'urgence qui pose un réel problème, c'est-à-dire qu'on va appliquer des mesures à la base pour lutter contre des terroristes, à la population qui veut lutter contre le pouvoir étatique. Voilà. C'était clair ou pas? Je vois lever les sourcils. Est-ce que c'est parce que ça vous effraie ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas compris ce que j'ai raconté?
En fait, ouais, j'ai compris parce que disons que le Conseil constitutionnel, il vérifie la conformité des lois par rapport à la Constitution, en fait. Et la Constitution, c'est le texte suprême, en fait, parce qu'il y a une hiérarchie des normes en France. Et la Constitution, c'est le best, enfin c'est le, enfin pas peut-être pas le best, mais c'est ce qui est tout en haut de la hiérarchie des normes, en fait. Et le souci, c'est que si on respecte pas ce texte-là, ça le fait pas, quoi. Donc du coup, c'est grave, en fait, clairement.
C'est dictatorial.
On sent que Mélissa a suivi des cours de droit constitutionnel.
C'est très bien que tu apportes cette précision, c'est tout à fait ça. Ça met en avant le fait qu'effectivement, c'est une mesure. Cette loi est autoritaire dans le sens elle ne respecte pas les préceptes de la Constitution française, quoi, tout simplement, ni l'habituelle procédure ou protocole législatif pour mettre en place une loi. Là, il y a personne qui a les dispositions pour contester les mesures de cette loi ont été écartées, quoi.
Après, je vais peut-être paraître un petit peu révolutionnaire, mais je veux dire, après cette Constitution, je pense pas qu'elle était. Elle a été créée à une certaine date, d'ailleurs je la connais pas, mais voilà.
Octobre 1958.
Parfait, Mélissa. Elle a été créée en octobre 1958, soit, mais je veux dire, peut-être qu'elle ne prévoyait pas en fait le terrorisme et qu'elle n'avait pas été faite pour ça. Après, peut-être que je me trompe, et je pense qu'il y avait sûrement des attentats déjà à l'époque, mais je pense qu'elle n'a pas été créée pour répondre à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question politique qui se soulève. Est-ce qu'on devrait changer la Constitution et la mettre un peu aux normes d'aujourd'hui, ou bien la laisser telle qu'elle? Et justement, c'est les libertés des citoyens déjà qui sont mis en danger. Et là, c'est une réelle question qui se soulève. Donc, je ne sais pas si quelqu'un va ajouter.
Moi, c'est plutôt une question. Tu avais dit qu'en 1958, ils ne savaient pas en gros qu'il y avait des attaques terroristes, mais la guerre d'Algérie, en fait, elle a commencé quand? Parce que je suis pas sûr, parce qu'en fait, elle a commencé, elle a été créée pendant la guerre d'Algérie, par peur de représailles, justement. Donc, en fait, ils avaient un doute, en fait, qu'il va y avoir des représailles de ce côté là-bas.
Merci de l'éclaircissement, Jonathan. C'est vrai que j'avais pas pensé à la guerre d'Algérie, mais c'est vrai qu'après, et je pense que peut-être qu'en fait, ils auraient peut-être dû prévoir déjà un petit peu plus, s'ils savaient déjà justement à ce moment-là, prévoir peut-être un petit peu plus, qu'il pourrait y avoir plus tard des événements de ce genre. Et donc, d'ailleurs, je pensais qu'elle était un petit peu plus vieille, la Constitution, donc bon, voilà.
Bah non, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la Constitution, il y a, enfin, je me souviens plus l'article précisément, mais il y a un article qui disait qu'on pouvait mettre un état d'urgence si jamais la sûreté du pays, en fait, elle était menacée, en fait. Et ce qui se passe, c'est que normalement, c'est un état d'exception, sauf que là, c'est un état d'exception qui se prolonge, mais normalement, l'état d'urgence, en fait, il est autorisé par la Constitution et c'est pas un truc qui est apparu comme ça du jour au lendemain, en fait, donc...
Puis c'est surtout qu'au niveau économique, l'état d'urgence, ça demande quand même... Il me semble que ça demande quand même beaucoup plus d'argent que l'état normal, entre guillemets. Mais je pense aussi que là, la France, si on a enlevé, il me semble, l'état d'urgence, c'est aussi parce que... on suivait plus trop économiquement. Hein. On peut pas tout le temps non plus être sur le qui-vive, je pense que...
Je sais pas.
Tu veux dire que ça coûtait trop cher?
Oui, mais il me semble qu'au niveau économique, ça coûtait quand même assez cher. J'ai plus les statistiques, mais il me semble que j'avais lu un article sur ça. Et...
Ouais, mais dans la mesure où... en quelque sorte, l'état d'urgence est pérennisé par l'application de cette loi. Qu'est-ce que ça change?
Ouais, c'est vrai, mais bon, je trouve que quand même, comme disait Mélissa, le prolonger alors que c'est censé être dans la Constitution un état d'exception, c'est vrai que du coup, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant une petite pause musicale? Non. Donc on va passer à une petite pause musicale, comme je disais il y a quelques instants. Donc cette fois-ci, c'est Isaac Chamber, Planet Flutition. C'est quoi de ces noms de titres, là? À tout de suite.
Time travel through the paradigms that paralyze us in our minds and keep us from our source, from taking hold of all control and knowing you're a part of the whole. Holy Ghost, God, Allah, Hare Krishna, Lord, whatever you wanna call it. Oh, truth be told, a universe of possibilities and distractions never leave. Communicate with me. Let me see your inner swirl away with me. Face to face, let's face it. Ain't no technology that can replace it. Not even in a billion years would disappear in all this information. Maybe then if we're still here, would it be clear? Thank you.
piling up, they're piling up. Insurmountable, granted that you're accountable. Contribute to the powerful, this age only gonna fade away. Start at the base, the conversation is on us. What's essential, material and mental? The spirit of the science or the science of the spirit? Look into your heart and find reflected is our image. I'm talking to myself, no doubt somebody's gonna hear me. Communicate with me. Let me hear your inner swirl away with me. Face to face, let's face it. Ain't no technology that can replace it. No, even in a million years would disappear in all this information. Maybe then if we're still here, would it be fair?
Bonjour, nous revoilà sur Micro Rebelle en direct. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou en diffusion tous les mardis du mois, c'est bien ça?
Dernier mardi du mois.
Ou bien en soirée de plus 104.3. Alors, je continue la parole. On a vu diverses choses et moi, sur mon côté, nous allons voir comment les djihadistes recrutent-ils sur notre territoire. Alors, il faut savoir que depuis novembre 2014, une loi antiterroriste consistant à bloquer certaines applications sur des sites internet a vu le jour pour lutter contre la radicalisation de l'État islamiste en France. En effet, une augmentation des départs en Syrie a eu lieu depuis janvier 2014 avec un taux de 116% expliquant l'adoption de cette loi. Ainsi, plusieurs sites internet ont été bloqués depuis mi-mars 2015 en empêchant tout accès des internautes sur ces pages. Cette loi vise donc à prévenir la radicalisation des individus sur les sites internet. Toutefois, nous pouvons nous demander comment ceux-ci en viennent à se radicaliser. Tout d'abord, il faut préciser que le passage par la mosquée n'est pas une obligation. Certains jeunes partent du jour au lendemain sans avoir jamais eu de réel contact avec l'islam, explique Dounia Bouzard, anthropologue et présidente du CPDSI, Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Par ailleurs, dans un de leurs rapports en novembre 2014, le CPDSI révélait déjà que cet endoctrinement concerne 80% des familles athées, issues non pas de milieux défavorisés, mais plutôt des classes moyennes et supérieures. Ayant une moyenne d'âge de 15 à 25 ans, la plupart ayant déjà été en Syrie ou projetés d'y partir. Nous pouvons alors nous demander comment ces jeunes sont recrutés. En fait, ce recrutement via Internet est le fruit d'une propagande redoutablement efficace qui se déroule en plusieurs étapes. Cela peut commencer par des vidéos découvertes par hasard issues de recherches effectuées sur Internet. Ils ont développé les thèmes du complot des plus forts contre les plus faibles, de contestation de la société de la consommation avec son lot supposé de mensonges et de scandales. Par exemple, le complot des films pharmaceutiques, on a vu ça il y a 2 semaines par Luc. Il y a le scandale sanitaire comme celui de la vache folle ou encore les publicités mensongères. On peut interpréter ces exemples de la manière suivante. On nous cache tout. On nous dit rien dans ce monde pourri. Les adolescents ne supportent pas l'injustice, indique Bruno Folissard, directeur de l'unité INSERM U699. En gros, c'est la santé mentale de l'adolescent. Dès lors, l'engrenage est en marche. Par ailleurs, je ne sais pas si vous faites attention, mais quand on regarde une vidéo sur YouTube, à la fin de chaque vidéo, il nous propose d'en relancer une autre. Eh bien, sur YouTube, c'est un procédé permettant de filtrer automatiquement un corpus d'informations en fonction des centres d'intérêt d'un internaute. Ainsi, de clic, en fonction de la vidéo initiale, l'adolescent glisse vers des contenus évoquant de plus en plus l'islam présenté comme le seul recours contre le mal, qui, je vous le rappelle, est la société pour les ados. Ces vidéos ont donc pour but de prolonger et parachever la phase d'endoctrinement en commençant par mettre en exergue des images de nature encensant de la beauté de la création d'Allah, précise le CPDSI, l'internaute commence à avoir des questionnements spirituels quasi absents jusque-là, avant qu'il soit exposé à une nouvelle salve de vidéos mêlant cette fois des prêches menaçants, par exemple sur les risques d'aller en enfer, ou encore sur les bienfaits de la conversion à l'islam. Ainsi, ce centre humanitaire, pour aider ou soigner les autres, sont repérés et abordés sous cet angle altruiste. Puis s'ensuit une phase dite de déconstruction. Le but est alors de l'isoler. Les messages utilisent un néolangage, celui des initiés comportant de plus en plus de termes arabes transcrits phonétiquement. La liste des interdits s'allonge, aliments contenant de la gélatine de porc, parfums à base d'alcool, etc., selon un analyste. Vient ensuite la phase de reconstruction, à travers le matraquage des vidéos de propagande sur le web, afin de réécrire l'histoire et les croyances de la personne. Pour finir, la dernière étape est celle du renforcement, qui consiste à tout faire pour que l'individu n'échappe pas à cette emprise. Il est donc surveillé par d'autres, et on lui donne des arguments tout faits qui lui permettent de répondre à ceux qui viendraient critiquer sa reconversion. Par exemple, on lui fait croire que la conversion à l'islam est un acte irréversible, ce qui, dans son esprit, ferme toute sortie et complique sérieusement toute tentative de retour à la normale. Voilà, j'ai fini.
Bah, c'était vachement instructif. Hein. Non, mais c'est vrai que ça montre un peu les stratégies d'endoctrinement et on voit bien que les djihadistes de Daesh sont en quelque sorte des experts en communication multimédia, quoi.
Et on apprend aussi qu'en fait que la reconversion ne fait pas ça en gros du jour au lendemain, ça fait plutôt avec plus longtemps, avec, parce qu'à force de faire vidéo, reconstruire, ça fait plusieurs étapes et non... vas-y, mets ça.
Mais du coup, moi je m'inquiète parce que je me dis, s'ils sont tellement forts dans la communication, je me dis, certainement, on a déjà dû voir leurs vidéos sans savoir que c'était ça en fait. Et c'est ça qui m'inquiète finalement.
Le message subliminal.
Ouais, non mais ouais, c'est flippant.
Bah moi j'aimerais rebondir justement sur les vidéos, ça me fait rappeler un film qui s'appelle Timbuktu, et dans le film en fait justement on voit, ça parle des djihadistes et tout, et en gros c'était un jeune qui a été recruté et il a un djihadiste devant lui, enfin lui maintenant il fait partie du clan, et finalement il doit dire un texte qui lui ressemble même pas et qui comprend pas forcément, et il est obligé de suivre à la lettre le texte et la personne en face l'enregistre et juste pour l'envoyer aux autres quoi en gros. Et c'est vraiment ce que du coup tu as cité, c'est dire qu'on voit que finalement ils sont obligés juste de citer des tests qu'ils comprennent pas forcément et enfin ils sont embrigadés dans tout ça.
Je pense que c'est un peu le principe de l'endoctrinement en fait, c'est du lavage de cerveau. C'est du lavage de cerveau sur des personnes peut-être fragiles ou vulnérables et qui sont peut-être proches d'une rupture aussi. Il y a ce facteur-là, le facteur de la rupture, parce que quand même. Ce qui fait qu'on passe, certes, d'un endoctrinement, peut-être d'une sympathie. C'est un peu bizarre de dire une sympathie pour Daesh, mais ça existe. D'une sympathie à des gens qui sont prêts à commettre quand même des actes de terrorisme, des actes barbares.
Après, je pense aussi que c'est par rapport à l'ère d'Internet aussi. Enfin, le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à prévenir le terrorisme, notamment en France, c'est aussi parce que Daesh passe surtout par Internet. Et c'est plus du terrorisme sur place. C'est à la fois du terrorisme sur place, mais aussi à distance sur Internet. Et ça, Internet, on peut pas vraiment lutter contre Internet, à part si on devient comme les Chinois et qu'on commence à bloquer Facebook et tous les réseaux sociaux. C'est sûr, après, ça devient une dictature. Et c'est ça, en fait. C'est la limite entre la liberté et la sécurité, donc c'est on pourrait contrebalancer ça, mais faudrait qu'on réfléchisse un peu plus sur le sujet. Mais en plus, je suis pas sûre, mais je crois que l'État islamique il use de spécialistes en fait en informatique pour tout ça, et donc du coup, c'est encore deux fois plus flippant, je trouve.
Parce qu'en fait, parce que j'ai parlé que de YouTube et de Facebook, mais il y a encore d'autres, il y a aussi Twitter qui ont 46 000 comptes sur Twitter, les djihadistes, et aussi sur les jeux vidéo, donc ils sont partout en fait, pas forcément que sur Internet, aussi sur les réseaux.
Ouais, voilà, bon, et on laisse la parole à Mélissa parce qu'après l'émission, on va devoir se terminer, on va devoir rendre l'antenne. On sait que tu vas avoir le temps de faire ton intervention et ta chronique. On te laisse la parole.
Alors, parlons donc de ces revenants de l'État islamique. Alors là, ce sont les chiffres officiels de 48 pays. Donc en fait, en octobre dernier, au moins 2000 anciens membres de l'État islamique étaient rentrés en Occident, sans compter ceux qui n'ont pas été repérés. Alors, à ce jour, il y a les États-Unis qui n'ont recensé que 7 de ces revenants, contre environ 400 au Royaume-Uni et 300 en France, comme en Allemagne. Donc, depuis 2016, la fréquence de ces retours a diminué, mais avec la chute des derniers territoires du califat en Syrie et en Irak, Les combattants de Daesh sont de plus en plus nombreux à se demander ce qu'ils vont faire et où. Donc on peut distinguer 5 grandes catégories de revenants. Donc déjà, il y a ceux qui sont repartis à peine arrivés. Bon, visiblement, ça leur a pas trop plu. Il y a ceux aussi qui sont restés un peu plus longtemps mais repartis déçus par l'organisation. Il y a ceux partis lassés des conflits mais sans regret. Il y a aussi ceux qui sont partis chassés par la reprise des territoires du califat. Et enfin, il y a ceux qui ont reçu l'ordre de leur supérieur de retourner dans leur pays pour y commettre des attentats. Super. Alors, du coup, la diversité de la menace diffère selon chacune de ces catégories et d'un individu à l'autre. Donc c'est pourquoi la police et la justice des pays occidentaux doivent évaluer le danger immédiat représenté par les revenants, mais aussi anticiper l'évolution possible de leur comportement. Donc du coup, c'est une longue et difficile tâche d'évaluation des risques. Surtout que s'ajoute la question des femmes et des enfants. Bon, alors, même s'ils sont moins nombreux que les hommes, ils sont des centaines à rentrer dans leur pays en Occident. Donc, notamment, sur les terres du califat, certaines femmes n'auront pas fait grand-chose d'autre que de se plier au rôle d'épouse et de mère, selon la définition archaïque et réductrice qu'en fait Daesh. Mais toutefois, en fait, elles vont revenir forcément marquées par des horreurs et par l'idéologie dans laquelle elles baignaient, surtout que certaines, même revenues, elles continuent à porter allégeance à Daesh et souhaitent éduquer leurs enfants dans le but qu'ils reprennent leur flambeau. Et quant aux enfants revenants, certains sont nés dans le califat. Alors, en fait, dans l'État islamique, l'endoctrinement, commence à l'âge de 5 ans et l'entraînement militaire dès 9 ans. Mais même ceux qui étaient trop jeunes pour avoir des contacts divers, directs avec l'organisation souffrent très certainement de troubles psychologiques et auront du mal à s'intégrer et à trouver leur place dans la communauté du pays d'origine de leurs parents, donc du coup quand ils retourneront en Occident. Alors, je vais vous parler du cas de la France. Donc en fait, la France, c'est le pays européen qui compte le plus grand nombre de ressortissants membres de Daesh. En effet, la France, elle est en première ligne dans la gestion des revenants. Donc pour vous donner un ordre d'idée, d'après les chiffres officiels donnés par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb le 31 octobre, ils sont 1910 Français à être partis, jusqu'à 450 seraient morts en Irak et en Syrie, et depuis 2012, environ 300 sont revenus. 244 hommes et femmes majeurs ainsi que 58 mineurs. Par ailleurs, pour ce qui est de la procédure, depuis 2015, les femmes et les hommes majeurs sont systématiquement placés en garde à vue. En effet, selon un représentant du ministère de la Justice interrogé en novembre par Libération, nous sommes réprimés pour le fait d'avoir rejoint ou tenté de rejoindre la zone irako-syrienne pour y mener le djihad armé au contact d'organisations terroristes. Et après, qu'est-ce qu'il se passe? D'après le ministère de la Justice, sur les 244 personnes revenues, 70 seraient non judiciarisées, donc laissées libres, car elles sont arrivées avant 2015, donc en fait avant les attentats, mais elles sont surveillées par les services de renseignement. Les 174 autres personnes majeures font donc l'objet de poursuites judiciaires et 141 d'entre elles sont en prison. Donc c'est un petit peu barbant tous ces chiffres, mais bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et pour les 33 autres, elles font l'objet d'un suivi judiciaire en milieu ouvert ou font l'objet d'un mandat d'arrêt. Alors, concernant les enfants, donc qu'est-ce qu'on fait des enfants? Donc, selon l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui avait expliqué en mars 2017, que leur retour éventuel nécessite des solutions appropriées. Donc, en effet, la situation des enfants, en fait, elle est divergente, puisqu'il y a des cas, par exemple, de mineurs radicalisés qui sont partis seuls. Il va y avoir des enfants de djihadistes embrigadés par Daesh, ou encore, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des enfants qui vont être nés sur place. Donc, eux, du coup, ils vont aussi pouvoir bénéficier d'un suivi médico-psychologique avec des gens qui seront formés spécialement pour ces cas-là. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il faut réintégrer ces revenants ou alors les laisser là-bas?
Ils ne sont pas classés comme fichier S par hasard, les revenants?
Bien sûr que si.
Donc, ouais, du coup, ouais. Ils sont surveillés 24 heures sur 24.
Ouais, mais c'est même plus que ça. Il y en a qui vont aller en prison. Hein. Ils vont aller directement. Il y en a qui reviennent et qui vont directement.
Les fichiers sont surveillés 24 heures sur 24.
En prison. Après, on n'a pas le choix. C'est comme tout à l'heure, on parlait de constitution. On n'a pas le choix que de les réintégrer. On peut pas. La France n'autorise pas la création d'apatrides. On peut pas leur dire on vous supprime votre nationalité. Ils l'avaient dit, mais c'est pas possible. Très très vite, parce qu'après, il faut qu'on laisse l'antenne. Vas-y.
Alors, je voulais juste vous dire que toutes mes infos, je les ai eues sur l'article, du coup, du Courrier International, donc le numéro 1422 du 1er au 7 février 2018, si vous voulez lire l'article, voilà.
Donc on va vous laisser de ce fait parce que ça passe très vite, mais
c'est un peu dommage qu'on ait pas le temps de débattre sur cette question qui est vraiment brûlante. Mais
niveau timing, c'est un peu serré, donc du coup on va vous laisser et bonne journée à vous et on se revoit vite. À bientôt.
Et on se retrouve sur microrebelle.fr, prochain direct dans 2 semaines. Et pour ceux qui habitent dans le coin, ils peuvent écouter l'émission sur Radio Plus à Douvrin, c'est le 104.3. Bon week-end ou bonne journée.
Do you sleep at night?
I sleep pretty well.
In the nightmares,
well, they come and go. I sleep pretty well.
In the nightmares,
well, they come and go. It's a melody only you can tell.
But do you like it here? Is it ours to share? These bedrooms,
I don't know yet.
Are we the ugly ones or a handsome
things I like sour patches or turtlenecks.